Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, nous allons parler de functional training. Je ne sais pas si mon accent est parfait, mais mon invité va rectifier. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, invité que j'évoquais tout à l'heure, il est invité, mais il est quand même un peu chez lui, puisqu'il fait partie de la station, puisque c'est notre producteur animateur d'une émission traitant du sport. Il va nous en dire un mot. Il s'agit, vous l'avez peut-être déjà reconnu, de Romain Galthié. Alors, Romain, bonjour.
Bonjour, Jacques.
Alors, en deux mots, allez, parlez-nous de l'émission que vous animez sur la station pour ceux qui ne la connaîtraient pas.
Alors, l'émission s'appelle Oxyform, elle traite du sport, de la santé et du bien-être sur notre région Occitanie et particulièrement sur la ville de Toulouse.
Voilà. Et donc, vous, Romain Galthié, qu'est-ce que. Vous fûtes militaire, si je puis dire, parce que ça, on peut le dire. Et oui. Puis, de retour à la vie civile, vous vous êtes, comme beaucoup de vos collègues, reconvertis. Et vous, vous avez fait le choix de rester dans le sport, parce que vous êtes un grand sportif. Et vous avez passé un certain nombre de diplômes qui font de vous aujourd'hui un coach professionnel.
Oui, tout à fait. Je suis éducateur sportif et entraîneur dans les domaines de la préparation physique, hein, la musculation, la course à pied, et également l'haltérophilie et d'autres disciplines.
Ça veut dire que lorsqu'on est confiné, ou même pas confiné d'ailleurs, mais surtout pendant la période de confinement, si on a envie un peu de continuer à s'entretenir, à se muscler pour ne pas devenir un gros adipeux qui ne fait que manger chez lui enfermé, on peut faire appel à vous et comme un certain nombre de vos collègues, vous vous déplacez.
Alors, tout à fait. Je traite plusieurs types de demandes. Donc, ça va être les demandes pour les entreprises, notamment les comités d'entreprise, le particulier et également les clubs sportifs. Voilà, donc je peux proposer des services à domicile également en visioconférence. Donc, forcément, pour nous, les éducateurs sportifs, on a dû devoir s'adapter au contexte actuel du Covid-19 et devoir passer également la visioconférence pour nos entraînements sportifs.
Faire du sport en visioconférence, c'est un peu comme apprendre le tir par correspondance, non ? C'est pas très commode.
Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut être déstabilisant. Si on a un suivi régulier, ça peut être beaucoup plus efficace justement d'avoir la présence, même si c'est par visioconférence, le fait d'avoir la présence, les consignes de l'entraîneur permet d'avoir une séance plus qualitative et également d'avoir cette motivation que l'on n'a pas seul chez soi en regardant une vidéo que l'on peut mettre pause à tout moment.
Ah, vous m'avez parlé de ce functional training. Bon, alors moi, je ne connaissais pas. Ce n'est pas que je suis moins sportif que vous. Il s'en faut largement, mais quand même, c'est une technique apparemment tout à fait nouvelle. Et quand on en a parlé, vous m'avez dit, mais c'est une discipline à part entière, encore méconnue, mais une discipline à part entière. Alors, le functional training, je ne sais pas si je le prononce bien, Kesako, comme on dit à Toulouse.
Alors, le functional training, ça, en français, ça vient de l'entraînement fonctionnel. Donc, c'est toute une panoplie d'exercices qui permettent d'améliorer les mouvements de la vie quotidienne. Donc, ça va être d'ouvrir ses placards à s'abaisser en gardant son dos droit pour se protéger lors de manutention ou tout simplement de tâches courantes. Et le functional training, justement, permet à un sportif de haut niveau la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention des blessures dans sa planification sportive, mais également aux sportifs dits loisirs ou vraiment débutants ou amateurs, justement, d'améliorer sa qualité de vie. Que ce soit dans sa posture ou dans sa santé, hein, ça améliore la condition physique de manière générale.
Alors, qu'est-ce que ça fait travailler ? Qu'est-ce que ça développe ?
Alors, ben, un peu tout. Hein. On travaille déjà sa coordination au niveau du mouvement. On travaille sa souplesse, sa vitesse, son endurance. Vraiment, le functional training regroupe, c'est un croisement du meilleur que l'on peut trouver dans chaque discipline sportive. Donc, il y a des mouvements forcément inspirés de la force athlétique, qui sont des mouvements de force. Nous avons des mouvements inspirés de l'haltérophilie, qui, pareil, ont des filières assez polyvalentes, mais notamment d'explosivité. On va avoir également des mouvements apparentés à la gymnastique, donc qui travaillent la souplesse, la mobilité, et même la course à pied ou d'autres sports d'endurance. C'est vraiment, si on peut dire, un sport entièrement complet où vraiment, c'est son but premier, c'est d'être le plus complet et ludique possible.
Mais ça s'adresse à qui? À des vieux, à des jeunes, à des femmes et des hommes. Ça, il n'y a pas de différence, j'imagine. Il n'y a aucune raison. Mais tout le monde peut pratiquer. Et si on veut pratiquer, il faut déjà avoir une base. Il faut déjà être un peu en forme, être sportif. Ou celui qui sort de son fauteuil peut directement arriver avec vous, travailler chez vous et faire du functional training.
Alors, le functional training, en général, c'était une discipline jusqu'à maintenant qui n'avait pas de cadre légal, hein. Ça, c'est tout récent, c'est depuis fin 2019. Le functional training est une discipline qui en général, servait de complément aux disciplines sportives, de par l'intérêt que ça va apporter à un débutant comme à un professionnel. Ce sont des bienfaits supplémentaires à une activité physique. Donc, on peut être débutant, être quelqu'un de sédentaire et trouver du bénéfice justement par ces mouvements qui vont être adaptés aux besoins de la personne. Donc ça peut être une personne âgée comme un sportif de haut niveau. En fait, tout le monde va y trouver son compte. Ça va dépendre également de l'enseignement de l'entraîneur.
Et comme c'est une discipline nouvelle, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants? Est-ce qu'on ne risque pas de se casser, entre guillemets, si on ne travaille pas avec un professionnel reconnu?
Alors effectivement, mais ça vaut pour tous les sports. C'est-à-dire que si on commence un sport sans consignes posturales, sécuritaires, d'exécution, on va aller droit à l'échec en mettant en tension nos muscles, nos tendons, nos ligaments. On va vraiment prendre un risque. Voilà. Donc le but d'avoir un sport, une activité physique et sportive encadrée, c'est justement permettre de limiter ces problèmes qui peuvent survenir quand une personne se livre à une activité de manière autonome, sans supervision.
Il faut des qualités particulières, physiques, mentales, je ne sais, pour pratiquer.
Alors, je dirais que pour la compétition, quel que soit le sport, y compris le functional training, il faut quand même un mental assez développé, parce que le but va être quand même de faire la meilleure performance possible, et cela vaut pour tous les sports. Je parle de tous les sports car le functional training en réunit plusieurs, et même si c'est un sport à part entière, on va dire qu'il a abouti à la suite de, on va dire de beaucoup de recherches sur l'ensemble des sports qui existaient déjà au préalable. On peut savoir que la culture physique, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça n'a fait qu'évoluer, il y a eu des réglementations, mais cet entraînement physique existe depuis la nuit des temps, pardon.
Et alors, comment ça existe depuis très longtemps, mais si je comprends bien, on a réuni plusieurs disciplines, mais qui étaient des disciplines préparatoires à d'autres disciplines déjà reconnues et qui, elles, faisaient l'objet de compétitions. C'est ça?
Alors, oui et non, parce que par exemple, la gymnastique est une discipline à part entière et qui n'a pas de, on va dire, d'intérêt pour une autre discipline. Ça peut, mais en général, un gymnaste va se donner à corps et âme dans la gymnastique, un haltérophile également. Donc, et quelqu'un qui pratique la force athlétique, voilà, ne va pas être un athlète de haut niveau dans la force athlétique et également dans la course à pied.
Qu'est-ce
En
que c'est la
général.
force synthétique, Romain?
Alors, la force athlétique, c'est une discipline de sport, de musculation sportive, où justement, on va devoir travailler sur le développé couché. Donc, c'est une discipline de soulevé de charge. Le squat, donc qui est le fait d'avoir une barre au-dessus des épaules et de descendre avec des charges très lourdes. Il y a également le soulevé de terre, où le but est de soulever une barre à partir du sol en relevant son buste.
Ça, c'est de l'haltérophilie classique.
Non, l'haltérophilie sont d'autres mouvements, c'est-à-dire il y a l'épaulé jeté, là où le but est de passer une barre au-dessus de sa tête à partir du sol, et l'arraché. L'arraché qui est un autre mouvement. Ce sont deux mouvements au niveau de l'haltérophilie aujourd'hui. La force athlétique a trois mouvements qui sont plus orientés musculation, alors que l'haltérophilie sont des mouvements un peu plus explosifs. Donc ce sont vraiment deux disciplines différentes. Elles peuvent être complémentaires.
Quand vous dites, pardon Romain, je vous coupe, quand vous dites explosif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est très tonique, ça veut dire qu'on arrache des charges, que...
Alors, c'est-à-dire que quand vous allez être explosif, par exemple comme un mouvement d'haltérophilie, vous allez avoir besoin de souplesse, de vitesse, de coordination, d'un geste très technique où vous allez devoir prendre une barre au sol et la lever, bras tendus au-dessus de votre tête. Alors que sur des mouvements de force athlétique, vous allez être sur un mouvement de force maximale, c'est-à-dire que le but, si vous avez une barre au niveau de la poitrine, ça va être de la pousser. Vous voyez dans les bancs de musculation les personnes assises pour travailler le haut du corps.
On voit ça dans toutes les salles de sport.
Exactement.
On fait ça.
Le principe de la force athlétique, c'est sur ces trois mouvements, c'est-à-dire le développé couché, le squat et le soulevé de terre, ça va être de soulever le maximum de charge en une répétition.
En une seule fois.
En une seule fois.
Donc on fait pas, on répète pas des mouvements, 10 mouvements, 20 mouvements, etc.
Alors, vous allez vous entraîner à faire énormément de répétitions avec des charges très lourdes pour que le jour J, où vous passez en compétition, vous ne ferez qu'un essai, enfin vous aurez trois essais, mais sur chaque essai, il faudra que vous augmentiez votre charge. Votre but va être de soulever sur vos trois essais la charge maximale sur votre mouvement pour vous permettre d'avoir le meilleur score.
Alors ça, c'est la partie, il y a plusieurs volets dans ce functional training. Ça, c'est la partie force, c'est ça.
C'est ça, c'est la partie force athlétique.
Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, le functional training est aujourd'hui expérimental. Donc, il y a un mélange de toutes les disciplines, mais vous allez avoir également des mouvements de course à pied, c'est-à-dire que vous allez avoir des épreuves de course à pied, vous allez être chronométré, vous allez avoir des épreuves avec du petit matériel, donc ça peut être des haltères, le kettlebell qui est une sorte de boule de fonte avec un arceau pour vous permettre de l'attraper avec vos mains.
Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a attrapé ?
Ah ben vous avez toute une gamme de mouvements qui sont expliqués avant les épreuves et qui vous permettent justement de travailler votre corps de manière globale. Vous avez également les barres olympiques, comme vous avez dans les salles de musculation, les longues barres où vous pouvez charger vos disques sur les côtés. Vous avez également des mouvements au poids de corps. Donc, il y a également des mouvements inspirés de l'entraînement fonctionnel comme le monté de corde que l'on peut retrouver à l'armée. Vous avez des mouvements au poids de corps aussi, des mouvements où vous travaillez avec des charges ou des mouvements avec votre simple poids de corps.
Vous parlez de compétition, ça veut dire qu'il peut y avoir des gens qui viennent s'entraîner, pratiquer l'ensemble de disciplines que vous venez de nous décrire, et puis à côté de ça, vous parlez de compétition, ça veut dire que ça va devenir un véritable sport à part entière, ce ne sera plus un sport soit de sculpture du corps ou d'entretien, mais ça va devenir un sport qu'on pourra peut-être un jour voir, je ne sais pas, aux Jeux Olympiques par exemple.
Alors oui, c'est, je pense, l'objectif de la fédération de force, c'est d'amener notamment le functional training, je pense à terme, aux Jeux Olympiques. Ça, je pense que c'est le rêve de toute discipline, hein, d'ailleurs, d'atteindre les Jeux Olympiques. Le fait que justement, c'est l'haltérophilie qui est inscrite aux Jeux Olympiques est une des disciplines qui est pratiquée dans le functional training.
Mais qu'est-ce qu'est la différence déjà... Il va y avoir, j'essaye de comprendre là, comment ça vient de s'insérer dans les sports plus classiques que nous connaissons. Alors les Jeux Olympiques, bon, on a eu au départ c'était les fondamentaux et puis maintenant on l'a ouvert à beaucoup d'autres disciplines plus modernes, plus peut-être plus ludiques aussi. Quelle est la différence entre ce que vous nous décrivez là et par exemple le décathlon où il y a une série de techniques différentes et d'épreuves différentes. Quelle est la différence?
Alors la différence, c'est que le décathlon, ça va être des épreuves très codifiées. Certes, au functional training, les épreuves seront codifiées aussi, mais au functional training, les épreuves seront aléatoires. C'est-à-dire que vous aurez des épreuves qui peuvent être un jour une épreuve de force avec couplée à une épreuve d'endurance et une de souplesse, admettons. Et le lendemain, vous aurez une épreuve seulement sur un mouvement explosif et un mouvement d'endurance. Donc en fait, le functional training va vous permettre de travailler une vaste gamme d'exercices et le but de la compétition dans le functional training va être de créer l'athlète le plus complet possible sur tous les plans.
C'est un peu ce qui se passe en décathlon quand on voit ces athlètes qui savent tout faire, savent courir, sauter des haies, lancer des poids, la perche, etc., etc. Il y a une dizaine de 10 disciplines, comme le nom l'indique, c'est un peu le même principe, non ?
Alors, dans l'idée, il y a une ressemblance, effectivement. Seulement, le décathlon va beaucoup plus s'inspirer de l'athlétisme, Alors que le functional training est issu des entraînements que vous allez retrouver dans les salles de fitness ou de remise en forme, dans les salles de musculation, où vous verrez des coachs encadrer, ou également dans des disciplines comme le CrossFit, où vous verrez des personnes encadrer des séances très ludiques avec des petits groupes et des mouvements qui n'ont forcément rien à voir avec ce matériel que vous allez trouver dans les salles d'athlétisme ou sur un terrain d'athlétisme, pardon, où il va vous falloir des perches. Là, c'est un matériel que vous allez trouver dans toutes les salles de sport auxquelles vous pouvez adhérer. Donc, en fait, ça permet et de rendre accessible cette discipline qui se veut la plus polyvalente possible et la plus complète au plus grand nombre.
Donc ça veut dire que dans les salles de sport classiques que l'on fréquente à l'année ou juste avant les vacances pour ressembler à quelque chose sur la plage, ça veut dire qu'on pourra pratiquer ce sport. Enfin, cette discipline, on va l'appeler.
Voilà, on pourra en tout cas s'y préparer si la salle a le matériel requis hein, et également si la salle a l'espace pouvant accueillir ce type d'exhibition, on pourrait effectivement organiser des open ou des compétitions de functional training.
Et ça, c'est prévu dans un délai bref parce que c'est une nouvelle discipline. Donc, peu de gens peut-être la pratiquent, peu de gens la maîtrisent. Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés déjà? Est-ce que déjà il y a une fédération? Première question.
Alors, oui, la fédération, c'est la fédération de force, donc la fédération française de force, qui a donné l'agrément en fait au functional training. Donc, ça a été rattaché. Le functional training était pratiqué de manière, on va dire un peu anarchique, c'est-à-dire qu'il y avait du cross-training, ça avait plusieurs dénominations parce qu'il n'y avait pas de cadre, c'est-à-dire que ce type d'activité d'entraînement fonctionnel était pratiqué par tout type de salle de remise en forme, de musculation ou même de salle associative et donnait le nom qu'il voulait. Donc ça allait être circuit training, parcours training, on y donnait tout type de nom, mais on s'est rendu compte que tous ces entraînements était de l'entraînement fonctionnel qui avait pour visée d'améliorer les qualités physiques et de travailler l'ensemble des filières énergétiques des adhérents.
Donc, on l'a codifié. Et donc, aujourd'hui, il va y avoir une liste d'épreuves, entre guillemets, hein, ou
Oui.
de phases d'entraînement parfaitement bien décrites, déterminées, et qui seront toujours les mêmes partout.
Alors, oui, en fait, il va y avoir un règlement. Un règlement. Là, ça va s'inscrire dans un cadre fédéral. Donc, il y aura à la fois un règlement, une nomenclature qui va régir les mouvements, les modes d'exécution et également les gestes éliminatoires. Donc, ce qui va permettre d'avoir un vrai encadrement, autant au niveau des arbitres que des pratiquants. Donc, le but, c'est que cette discipline soit le plus sécuritaire possible. Ce qui n'est pas actuellement le cas dans tout type d'exhibition non officielle qui se déroule en France.
Romain, tout ça est épuisant, rien que d'en parler, on fatigue. Je vous propose de faire une pause musicale. Je l'ai choisie, je ne vous ai rien demandé. Elle vient de nous quitter, elle avait un immense talent. C'est Anne Sylvestre, je vous propose de l'écouter.
Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom, oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège, non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête? Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste, depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Voilà, c'était Anne Sylvestre, encore une fois, qui nous a quittés il y a quelques jours, dont on retrouve avec un immense plaisir la voix. Et nous retrouvons également, après Anne Sylvestre, notre préparateur physique, notre Romain Galthié, je dis notre puisqu'il appartient, il fait partie des producteurs animateurs de la station, qui nous parle aujourd'hui du functional training, nouvelle discipline qui a été codifiée récemment et que l'on va retrouver peut-être un jour aux côtés de bien d'autres bien connus aux Jeux Olympiques. Alors, quel est vous parliez de compétition, donc si à compétition ça va être organisé, ça veut dire que la fédération va organiser des épreuves diverses et variées. Comment tout ça va se passer?
Alors justement, on est en charge de la première compétition. C'est un open de functional training. Ah. Ça sera la première compétition en Occitanie, qui sera une compétition test, où justement, avec l'entraîneur d'haltérophilie de Colomiers, Éric Nisseron, et moi-même, nous allons développer cette discipline, développer ce format de compétition. Donc, il y aura trois épreuves pour la compétition que nous allons prévoir très prochainement. En fonction du contexte actuel, c'est très compliqué de positionner une date, mais une compétition a été préparée, des épreuves ont été préparées, donc il y aura trois types d'épreuves. La première sera sur un objectif de vitesse, la deuxième sur un objectif d'endurance, et la troisième sur un objectif de force. Ensuite, il y aura des qualifications pour les demi-finales. Donc tout le monde aura accès à ces demi-finales où il y aura une quatrième épreuve. Donc il y aura les demi-finales élites et les demi-finales classiques. Donc les élites regrouperont les meilleurs éléments, les plus compétiteurs, et les demi-finales classiques qui regrouperont le public de classique, de débutants pardon, à amateurs. Ensuite, suite à...
Pardon, allez-y, terminez Romain, terminez.
Suite à ces demi-finales, en gros, tout le monde peut aller jusqu'à la demi-finale. C'est-à-dire que ce qui peut être frustrant dans des compétitions classiques, c'est de faire votre première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, comme ça vous avez réussi. Vous avez effectué les trois épreuves qui vont vous donner des points et on vous dit au revoir, la compétition est terminée. Le fait de rendre cette compétition ludique et que la personne ait pu pratiquer son sport et ressortir vidé énergétiquement et satisfait de sa séance, nous avons eu la décision d'intégrer des demi-finales consolantes et des demi-finales élites, ce qui permet aux gens qui vont participer à la compétition, aux compétiteurs, d'effectuer 4 épreuves et, comme tout le monde, de participer aux demi-finales. Et ensuite, il y aura encore des qualifications qui permettront de choisir justement les meilleurs de chaque poule pour les qualifier vers les finales élites et les finales classiques.
Alors ça va, vous allez l'organiser avec votre ami et collègue. Ça va être où, quand et comment ?
Alors, ça va être organisé dans une salle de sport qui se situe à Balmagramont.
Oui.
Voilà, donc ça. Pour la date, nous sommes toujours. Nous
n'annonçons pas. Toujours ce problème de Covid. J'imagine qu'aujourd'hui, vous ne donnez pas des cours dans les salles, comme je sais que vous le faites régulièrement, ou peut-être même vous n'allez pas chez des particuliers pour des entraînements spéciaux.
Alors actuellement, c'est très compliqué. On ne peut pas ouvrir de salles ni organiser d'événements sportifs actuellement. Donc ça devient très compliqué pour mettre en place ce type d'événement. Donc c'est pour ça que le projet est terminé, complet, prêt à être réalisé. Seulement pour avoir une communication efficace, avant de positionner une date, on préfère attendre de voir comment le gouvernement va décider d'alléger les mesures pour pouvoir permettre une reprise progressive du sport et notamment des compétitions.
Une salle qui voudrait pratiquer le functional training, elle pourra, il faudra pour cela qu'elle ait un enseignant spécialisé ou diplômé ou avec une formation particulière ?
Alors, il y aura plusieurs choix. Donc, soit la personne est diplômée, parce qu'il y a des diplômes qui vont être créés par la fédération. Ce sont des brevets fédéraux. Donc, ce ne sont pas des diplômes professionnels, mais vous aurez des diplômes d'initiateur, de formateur au functional training via la fédération. Et ensuite, les éducateurs sportifs professionnels, comme je le suis ou comme l'entraîneur de Colomiers, pourront eux également pratiquer le functional training et l'enseigner dans leur club respectif. Seulement pour participer aux compétitions de functional training, comme toute fédération sportive, il faudra une licence. Donc soit la salle prend une licence et les adhérents du coup payent leur licence pour pouvoir être affiliés.
Oui.
Soit ce sont des personnes détachées qui vont payer leur licence à la journée lors de la compétition. Les personnes qui seront déjà licenciées n'auront qu'à payer les frais d'inscription de la compétition, alors que les personnes qui ne seront pas licenciées paieront leur licence à la journée et l'inscription.
Ça ne va pas un peu faire peur aux gens? Alors, pratiquer dans une salle tranquillement, à son rythme, oui, mais faire des compétitions sur des disciplines aussi variées, aussi exigeantes, disons-le, est-ce que ça ne va pas rebuter un peu les vocations?
Alors, oui et non, on peut dire qu'en général, les épreuves de musculation peuvent faire fuir un certain public, mais aujourd'hui, de plus en plus, les salles de remise en forme intègrent des mouvements utilisés dans le functional training dans le cadre de la remise en forme. Donc, ce n'est plus, on va dire, l'apanage des sportifs de haut niveau et des culturistes. On va dire que maintenant, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. C'est un des sports, maintenant, la remise en forme, la musculation en salle classique est parmi les sports les plus pratiqués en France. Donc, je pense qu'il y a énormément de gens qui, justement, se donnent énormément au niveau de leur activité dans leur club et n'ont pas d'option pour pouvoir, justement, se tester face à des adversaires ou même avec leurs équipes d'amis pour pouvoir tester leur niveau dans un cadre compétitif. Donc, ça peut être intéressant d'apporter cette démarche compétitive à un public, même débutant, voire amateur, pour à leur propre niveau aller au bout d'eux-mêmes.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a on délaisse un peu les sports classiques, on délaisse l'athlétisme pour des choses peut-être plus, si je dis plus faciles à pratiquer, vous allez bondir, mais est-ce qu'on ne recherche pas quelque chose de plus ludique qui nécessite moins d'efforts? Parce que si vous voulez faire du 100 mètres ou de la perche, c'est quand même des entraînements très durs, très complexes, très longs, très répétitifs. Est-ce que là, c'est pas du sport, mais plus ludique? Est-ce qu'on ne recherche pas, j'ose pas dire la facilité, mais plus la partie ludique que la partie sportive?
Alors, j'irais. Non, oui, alors, plus ludique, c'est indéniable. Plus facile, je pourrais dire non, sans aucun problème. Toute discipline sportive va être dure si on la juge dure. Il y aura des difficultés, comme dans tout sport, mais ça ne sera pas dur. La difficulté fait partie de tout entraînement sportif. Et je dirais même que c'est plus exigeant qu'une discipline classique. Parce que justement, ça va être au carrefour d'énormément de techniques issues de toutes ces disciplines. Et ça va devoir nécessiter un peu plus de travail pour toutes les maîtriser. Et ça va également permettre à un athlète d'être complet, d'être bon dans tous les sports. Donc, en ce terme-là, je dirais que c'est effectivement, ce n'est pas forcément plus facile qu'un sport très spécifique. On va être beaucoup plus spécialisé sur un sport de type, par exemple, l'athlétisme, hein, tout simplement, le 100 mètres. On va être un spécialiste, donc on va fournir un effort ardu pour atteindre le meilleur temps dans le 100 mètres. Mais ça va être la même chose pour quelqu'un qui pratique le functional training, qui va devoir faire un 100 mètres et également donner son meilleur temps, mais également juste après, sans repos, aller soulever une barre au-dessus de la tête sur un mouvement d'haltérophilie, et juste après, par exemple, monter trois cordes bras seul. Voilà, donc c'est l'enchaînement de ces trois mouvements qui va justement rajouter de la difficulté. Donc forcément, l'athlète de functional training sera moins bon sûrement aux 100 mètres, mais il saura également faire des mouvements de force olympique, comme par exemple un mouvement d'haltérophilie, et ensuite grimper à une corde à la force de ses bras. Ce que ne saura pas faire le champion d'athlétisme.
Est-ce que les gens aujourd'hui, et là je m'adresse aux professionnels que vous êtes, puisque vous fréquentez des salles, vous accompagnez au quotidien des gens dans leur développement physique? Est-ce qu'ils n'ont pas. Quel est leur besoin? Quelle est leur recherche? C'est l'envie de se dépenser? C'est un idéal esthétique, c'est-à-dire avoir un corps peut-être un peu plus agréable, avec lequel on vit mieux, que l'on peut mieux exhiber, entre guillemets? Est-ce qu'on recherche l'effort pour l'effort? Quelles sont les motivations des gens qui vont s'enfermer dans une salle? Alors, on l'a tous fait, hein, moi le premier. C'est vrai que les 3 premiers mois, c'est très agréable parce que, bon, on sent le corps un peu se modifier, on a un peu mal, on a un peu quelques courbatures, on sent que ça bouge. Et au bout de quelques temps, ça devient un peu emmerdant, si vous me passez le terme, parce que ce sont des exercices très répétitifs.
Alors justement, je dirais que la raison numéro un pour laquelle les gens font appel à des coachs sportifs ou des éducateurs sportifs, c'est tout simplement l'esthétique, c'est se voir plus beau, se sentir mieux dans son corps, avoir une meilleure image de soi, devenir une meilleure version de soi-même. Ça, je dirais que c'est le facteur numéro un en règle générale, parce qu'il diffère vraiment d'un client à un autre. Le facteur numéro deux, je dirais que c'est la santé. Des personnes qui ne souhaitent pas être essoufflées en montant des marches, qui se sentent un peu limitées dans leurs mouvements, qui souhaitent avoir une meilleure amplitude dans leurs gestes du quotidien, ne pas avoir de douleur en bas du dos, au cervical. Par exemple, les gens deviennent de plus en plus sédentaires via leur mode de vie, la chaise, le bureau, l'ordinateur, toutes ces choses-là qui empêchent le mouvement qui est essentiel à notre santé. Donc, je dirais que le deuxième point, c'est la santé, hein, qui amène les gens vers nous. Et le troisième point, qui est un peu plus rare, ça va être la performance. Ce sont des gens qui ont besoin de se challenger, qui ont besoin d'aller un peu plus loin que ce qu'ils feraient tout seuls. Et pour le quatrième point, je dirais que c'est la motivation. Il y a énormément de gens pour qui le sport est effrayant. Se lancer là-dedans tout seul, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Et donc, vraiment, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc, je pense que vraiment, voilà. Là, j'ai essayé de hiérarchiser, mais ce sont les quatre points qui reviennent le plus souvent dans la démarche des personnes qui souhaitent se faire accompagner dans le sport.
Qui c'est qui fait du sport aujourd'hui, vous qui les voyez? Socialement, ce sont des gens. Pour faire du sport, il faut déjà avoir des sous, puisqu'il faut payer des abonnements ou payer un coach. Il faut ensuite avoir un autre luxe que l'argent, c'est du temps, puisqu'il faut y consacrer. Alors, si vous êtes une mère de famille avec 3 enfants qui devait travailler la journée, rentrer chez elle, faire des déplacements, ou un père de famille d'ailleurs, il n'y a pas de raison de faire de différence. Est-ce que ce n'est pas un luxe suprême que de consacrer du temps et des sous à son corps?
Il fut un temps, oui, il fut un temps où le sport Même le coaching sportif, tout simplement, était un luxe. C'était réservé à une élite et même la musculation en soi était réservée à une élite. Aujourd'hui, les salles de sport sont démocratisées avec les salles low cost. Vous pouvez avoir
Enfin,
un abonnement à,
c'est quand même pas donné, Romain, les salles de sport.
À 20 euros par mois, je trouve ça relativement peu cher, comparé à il y a 20 ans où en dessous de 80 à 100 euros, vous n'aviez rien.
Donc ça veut dire qu'avec 20 euros, je peux aller faire du sport quand je veux dans une salle.
Ah oui, je ne vais pas nommer les salles, mais effectivement, si vous allez vers les salles low cost, pour 20 euros, vous avez un accès libre.
Mais quand vous
Ensuite,
dites
si
low cost, ça veut dire peut-être que c'est un peu les conditions sont un peu spartiates, non? À
Alors
ton
non, vous
niveau.
pouvez avoir du très bon matériel, ce sont juste d'énormes chaînes qui vous proposent du matériel neuf, des salles à accès libre, mais par contre, vous n'avez pas de coach, vous n'avez pas d'éducateur sportif qualifié, vous rentrez, vous vous débrouillez. Voilà. Ce schéma existe. C'est conseillé pour des sportifs confirmés qui pourront pratiquer leur discipline vu qu'ils ont déjà le savoir. Mais pour la personne qui débute ou qui souhaite être encadrée, il va falloir monter en gamme parce que forcément, avoir des éducateurs sportifs diplômés, ça a un coût. Et forcément, ça, c'est une masse salariale en plus, donc les abonnements vont être plus chers. Ensuite, si vous voulez passer sur du coaching, on va dire la Rolls-Royce dans le sport, c'est le coaching personnalisé, le plus efficace. C'est là où vous avez plus de 100% de résultats parce que vous avez un coach qui va vous faire un bilan adapté à vos besoins, qui va étudier, qui va vous faire un bilan pour étudier où sont vos faiblesses, vos forces, et qui va établir vraiment une planification sportive sur plusieurs mois adaptée à votre progression, à votre envie, à votre emploi du temps. Donc là, c'est vraiment du sur-mesure, et on va dire que c'est la manière la plus qualitative et la plus rapide d'atteindre vos objectifs. Donc c'est sûr que là, on peut parler de luxe entre guillemets. Mais personnellement, j'ai des personnes avec de très petits revenus avec qui j'ai pu m'adapter. Donc au lieu de faire des séances d'une heure, d'une demi-heure, alors que je peux avoir des chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de temps, mais qui ont le budget et justement qui ont besoin de se faire entraîner car ils n'ont pas le temps d'aller eux-mêmes se renseigner. Donc on peut avoir tout type de profil. Vraiment, c'est.
À Toulouse, il devrait y avoir que des gens beaux, musclés, en pleine forme, parce que vu le nombre de salles, que je crois qu'on est une des villes de France, mais vous devez le savoir, où il y a le plus de salles de sport et peut-être de coach.
Alors oui, on est parmi les villes les plus sportives. Il me semble qu'on est la troisième ville la plus sportive de France, après Rennes et Paris, il me semble. Donc oui, nous sommes une ville très sportive. Après les salles de sport, le problème actuellement, c'est que oui, il y en a beaucoup trop. Et notamment, c'est le low cost qui, on va dire, qui se densifie dans notre région et au détriment des indépendants. Qui sont des salles qui, pour moi, ont plus d'âme et qui vont justement vous proposer quelque chose de plus personnalisé.
Qui aime, pour revenir au functional training, qui est l'objet de notre conversation aujourd'hui, qui c'est qui a inventé ça? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dû se dire un jour, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, et on va en faire une discipline à part entière. C'est venu d'où? C'est les Français qui l'ont inventé? Ce sont nos amis anglo-saxons?
Alors justement, on n'a pas d'origine exacte, hein, mais on sait que ça vient du corps médical. En fait, c'était l'entraînement fonctionnel, donc c'était suite les kinésithérapeutes et tous ces professionnels de la santé qui ont pratiqué cet entraînement en termes de réathlétisation une fois que la personne avait fait sa rééducation pour remuscler la personne, on utilisait ces techniques. Donc ces techniques d'entraînement ludique, variées, où le mouvement dans sa globalité, était pris en compte, où le but était de retrouver une mobilité suite à une pathologie. Aujourd'hui, c'est vrai. On peut dire que c'est né depuis 2019 officiellement dans un cadre fédéral, mais que c'est pratiqué depuis peut-être 10 à 15 ans sous d'autres noms et que ça ne cesse d'évoluer.
Alors,
Aujourd'hui,
Monsieur Jourdain faisait de la poésie sans le savoir et beaucoup de gens faisaient du functional training sans le savoir, c'est ça.
c'est possible, oui.
Mais aujourd'hui, on a codifié, donc ça va être un peu plus professionnel, un peu mieux encadré, et il y aura peut-être un peu moins de dérapage, parce qu'il y en a qui font un peu n'importe quoi avec leur corps et qui s'en ressentent après.
C'est le problème, hein, on peut le retrouver dans le fonctionnel parce qu'effectivement, on a des charges, mais dans toute discipline où il va y avoir intensité, si les récupérations ne sont pas adaptées à l'effort, si les mouvements ne sont pas exécutés, pardon, de la bonne manière, il y a forcément un risque de blessure qui est justement dommageable pour les pratiquants. Le but de cette discipline, c'est vraiment d'arriver à poser un cadre pour limiter les blessures, mais également à rendre les disciplines les plus optimales et ludiques pour la progression des adhérents.
Merci Romain. Bon, on va rappeler quand même les fondamentaux, là, si je puis dire. Donc, c'est le functional training. Nous allons avoir le premier open en Occitanie, donc on en est très fiers. C'est vous, Romain Galthié, et votre ami dont je vais vous laisser rappeler le nom, qui est en charge de l'organisation. Comment s'appelle-t-il? Vous l'avez cité tout à l'heure.
Alors, c'est Monsieur Éric Nisseron, qui est l'entraîneur du club USC Muscu de Colomiers. Oui, c'est le club USC Muscu Altero Force Athlétique de Colomiers.
Rien que le nom, déjà, ça fait peur.
Ah, c'est un club où, justement, où il y a les deux affiliations, à la Force Athlétique et à la Fédération d'Haltérophilie également. Et voilà, qui nous aide à 200% sur le développement du functional training. Et voilà, il y a la salle.
Et la salle, alors la salle où ça va se réaliser, l'Open, c'est à Balma, c'est ça?
Alors, c'est à Balma-Gramont et c'est une salle qui s'appelle Bootcamp Extrême.
Bon, là, on aura des informations, vous nous les donnerez, on les relayera sur l'antenne dès qu'on saura quand est-ce qu'on va pouvoir pratiquer. Mais ça, c'est le Covid qui va être un peu l'arbitre dans cette affaire. Romain, si on a besoin de vos services, où est-ce qu'on peut vous trouver?
Alors, mon site internet est en création, mais sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook ou même sur ma chaîne YouTube au nom de Romain Galthié. Voilà, où je propose également des vidéos d'entraînement gratuites, de stretching, de pilates, pour se remettre en forme pendant cette période un peu compliquée, si on peut le dire.
Voilà, mais écoutez, vous savez tout, vous n'avez aucune raison aujourd'hui de nous dire que vous avez des douleurs parce que vous travaillez assis, vous travaillez dans des postures complexes, ou que vous soyez bedonnant, vous avez tout ce qu'il vous faut avec Romain Galthié, avec ses complices, avec le functional training. Merci Romain de nous avoir éclairé sur cette nouvelle discipline que personnellement je ne connaissais pas, mais il y a longtemps que je ne pratique plus ce genre de choses ou que je fréquente les salles de sport. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec au montage Yanis Boudin, et vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Encore une fois, merci Romain et bon vent à cette nouvelle discipline, bon vent à cet Open que vous allez créer, monter très bientôt, je l'espère, en Occitanie. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à toutes et à tous. Adeu.